Bonsoir, comment allez-vous? Il y a quelque temps, sur France Inter, une journée était consacrée au double des cas. Avoir 20 ans en 2020. C'était émouvant parce qu'à moi qui n'ai plus 20 ans, beaucoup de ces gamins avaient plus de choses à m'apprendre que je ne le pensais. C'est un moment étrange que celui où on se fait doubler par la génération suivante. Je ne parle pas technologie, bien sûr que des petites 3 ans savent mieux se servir de mon téléphone que moi. En revanche, je sais marcher, faire du vélo, conduire une auto, je sais lire et écrire. Je sais vérifier ma monnaie, faire pousser des fleurs, reconnaître un menteur, lire une carte, dire merci. Toutes ces choses utiles que, naturellement, nous apprenons à la génération qui arrive. Nous savons, ils ne savent pas, on leur montre. Et puis un jour, ils savent. Mais comment savoir quand ils savent? Quand ils sont agacés par nos conseils? L'agacement n'est pas un marqueur fiable. Quand ils font bien, tout simplement, mais sommes-nous capables de le voir? Parfois c'est clair, quand ils vous disent « tu veux que je conduise, nous passons les clés et allons nous endormir sur le fauteuil du passager », il n'y a pas de doute, les rôles se sont inversés. Parfois c'est plus subtil, ils nous ont doublés sans qu'on s'en aperçoive. Sur France Inter, c'était flagrant, ça m'a grisé. Cette génération est capable, énergique, intuitive, courageuse. Mais ça voudrait donc dire qu'on n'a pas fait que leur filer des complexes et des angoisses. Parents, marraines, voisins, amis, tous ces gamins qui sont passés entre nos mains, mais ils sont bien. Alléluia et pipi pourra, arrêtons de nous ronger. La relève est là, il l'avait bien dit. T'inquiète, je gère.
Bonjour, je m'appelle Auguste. J'ai 7 ans, je voudrais savoir pourquoi on doit tout le temps obéir aux parents. Merci de me répondre, au revoir.
Je m'appelle Jeanne, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi est-on toujours obligé d'obéir aux parents. Merci, au revoir.
Bonsoir Auguste et Jeanne. Denis Marquet est philosophe, thérapeute et écrivain. Et à propos d'écrivain, j'aimerais citer « Nos enfants sont des merveilles », tellement le titre est beau, et c'est édité chez Nil. Vous pouvez leur répondre, Denis Marquet ?
Oui, bien sûr, Auguste et Jeanne. Je ne sais pas s'il faut toujours obéir aux parents. C'est certain que les parents demandent toujours obéissance, mais en même temps, les parents n'ont pas envie que les enfants leur obéissent d'une manière aveugle et qu'ils deviennent des êtres soumis. Donc, il faut obéir aux parents dans la mesure où on sent que ce qu'ils nous demandent est bon pour nous. Mais en général, ce que demandent les parents est bon pour nous, parce que les enfants ne connaissent pas le monde. Ils connaissent bien la vie parce qu'ils ont une vitalité extraordinaire et les parents gagnent à s'inspirer de la vitalité de leurs enfants, de leur ouverture, de leur enthousiasme, de leur joie de vivre. Mais ils ignorent le monde et les parents connaissent le monde. Et c'est la raison principale pour laquelle il est nécessaire de leur obéir, c'est qu'ils connaissent d'abord les dangers du monde, et puis ils connaissent les règles du monde. Les dangers, quand on est emmené par son désir, par son enthousiasme, par tous les élans de vie qui nous habitent...
Élan pour traverser une rue, par exemple.
Un élan pour traverser une rue, par exemple. Ne connaissant pas le danger, eh bien, on peut avoir un accident. Et quand les parents disent « il faut toujours regarder » ou « donner la main pour traverser », eh bien, c'est pour nous protéger. De la même manière, il y a des règles dans le monde. Si on ne respecte pas les autres, par exemple, eh bien, les autres, ils risquent de pas nous aimer et ils risquent aussi de parfois se montrer violents avec nous. Donc, toutes les règles du respect, il faut leur obéir parce qu'elles sont bonnes pour nous. En réalité, on ne doit obéir à des ordres que quand ils sont bons pour nous. Et si on n'est pas sûr qu'un ordre soit bon, quand on est enfant, on a toujours la possibilité de demander des explications aux parents, de demander pourquoi. Et les parents expliquent pourquoi ce qu'ils nous demandent est bon. Et à ce moment-là, on va leur obéir avec le cœur joyeux. Et c'est ça le plus important, c'est d'obéir librement, donc en sachant pourquoi il est bon d'obéir.
Alors Denis Marquet, Auguste et Jeanne, pose la question en tant qu'enfant. En vous entendant répondre, moi je me dis en tant que parent, à un moment donné, la liste des pourquoi, la suite des pourquoi, ça saoule. On a envie de dire, écoute maintenant, ça suffit, fais ce que je te dis, point.
Oui, on a envie, mais c'est pas pour autant que c'est bon de le faire. C'est-à-dire que, en tant que parent, je peux dire qu'effectivement, la litanie des pourquoi,
voilà, la litanie,
quand on est fatigué, eh bien, de fait, ça peut saouler, ça fatigue, mais il faut pas oublier que l'enfant, quand il demande pourquoi, c'est un vrai besoin. Un besoin de sens, un besoin de compréhension, et que si ce besoin est frustré, il finira par obéir parce que il y a un rapport de force qui est en la faveur du parent, mais s'il obéit à cause d'un rapport de force, il obéit sous la contrainte, c'est de la soumission et c'est pas de l'obéissance. La véritable obéissance diffère de la soumission parce que quand on obéit à une autorité, une véritable autorité, on obéit librement. C'est ça le paradoxe de l'autorité, c'est faire en sorte que quelqu'un obéissent librement à ce qu'on lui demande. Et librement, ça veut dire qu'il le désire. L'enfant désire obéir, pour autant qu'il est convaincu que c'est bon et c'est juste pour lui. Être enfant, c'est pas toujours facile. Comme on connaît pas le monde, il y a des angoisses. Et si le parent nous donne des règles et des limites qui nous permettent de nous orienter dans le monde, alors les angoisses diminuent. C'est rassurant.
C'est très intéressant, cette notion de soumission qui n'est pas l'obéissance. Dans Les Petits Bateaux ce soir, vous avez demandé comment les peintres fabriquaient leurs peintures quand les tubes n'existaient pas. Vous avez demandé comment on a nommé les choses et pourquoi les ampoules pétaient. Ça, c'était un petit peu autrefois, bien que ça arrive encore.
Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir pourquoi on dit que la pomme est bonne pour la santé alors qu'il y a du sucre dedans. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour Constance, pourquoi la pomme est-elle bonne pour la santé alors qu'il y a du sucre dedans? Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il y a du sucre dans la pomme? Oui.
Il y a beaucoup de sucre dans la pomme, comme dans beaucoup de fruits, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le sucre n'est absolument pas mauvais en soi. Si le sucre on en a besoin, il nous fournit de l'énergie, c'est uniquement un éventuel apport excessif qui peut poser problème. Donc manger du sucre, c'est bien. Après, en manger trop, c'est moins bien. Et c'est vrai que les fruits sont sucrés, parfois très sucrés, mais ils nous apportent beaucoup d'autres choses. Donc ils nous apportent tout un tas de nutriments, des vitamines, des minéraux, des fibres. Et c'est très important, non seulement en tant que tel, c'est-à-dire que manger des fibres, c'est bon pour notre transit, mais ce qui est important, c'est de consommer le fruit lui-même, et non pas, par exemple, le jus de fruit. Parce que dans le jus de fruit, pour le coup, on n'a plus que le sucre, et aussi quand même les vitamines et minéraux, mais on a perdu les fibres. Or ces fibres, au-delà du fait qu'on en ait besoin, c'est aussi elles qui vont ralentir, avec un phénomène qu'on appelle l'effet matrice, c'est-à-dire que la structure de l'aliment, la structure de la pomme, fait que quand on va croquer la pomme, la diffusion et notre assimilation du sucre va être ralentie par le fait qu'on a du sucre qui est piégé dans une matrice tissulaire avec des fibres. D'où l'intérêt, effectivement, encore une fois, de malgré la teneur en sucre élevée, de croquer les fruits qui vont éviter un pic de glycémie trop violent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que une forte consommation de fruits a plutôt un effet bénéfique. C'est-à-dire que diminue le risque de diabète, alors qu'une forte consommation de jus de fruits, au contraire, augmente le risque de diabète. Et cela, c'est uniquement dû à cet effet, qui est cet effet matrice, qui fait qu'on ralentit et on lisse le pic de glycémie.
Il y a l'effet matrice, et puis il y a aussi que quand même une pomme, pour la croquer, faut la prendre, faut la laver éventuellement, faut l'éplucher si on l'épluche, et puis il faut la croquer, tandis que le jus est glou, et glou,
et
glou.
Exactement, et on se rend compte effectivement qu'en buvant du jus de pomme, on peut boire l'équivalent de 2-3 pommes facilement, et ce qui va nous apporter beaucoup trop de sucre. Un jus de raisin, ça contient facilement 160 grammes de sucre au litre. C'est-à-dire que c'est plus que les sodas. C'est-à-dire qu'un verre de Coca-Cola, pour pas citer de marque, va avoir moins de sucre qu'un verre de jus de raisin ou même un verre de jus de pomme. Pour l'anecdote, on a la même chose de manière similaire sur les pâtes, par exemple. La réponse glycémique des pâtes dépend complètement de leur cuisson. C'est-à-dire qu'une pâte très cuite, donc beaucoup plus déstructurée, va entraîner un pic de glycémie beaucoup plus brutal qu'une pâte al dente. Parce que justement, tout l'amidon est beaucoup plus retenu dans le fait qu'elle n'est pas très cuite. Donc c'est un intérêt supplémentaire, au-delà du fait que c'est quand même meilleur, de manger des pâtes al dente plutôt que des pâtes archi-cuites.
Et bien voilà, un argument de plus pour les pâtes al dente. Merci Christophe Lavelle.
T'en sais rien, oh t'en sais rien, jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien, mais t'en sais rien, oh t'en sais rien, tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint, le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche, mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit rien, jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien, tu en joues. Jusqu'ici tout va bien, d'ici on... Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien, c'était Clou, Clou pas comme Saint-Clou, Clou C-L-O-U comme un clou. En fait, c'est le diminutif d'Anne Claire en passant par Anne Clown, c'est plutôt mignon.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question au petit bateau, vous faites le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Seamus. Je voudrais savoir pourquoi ça pète les ampoules.
Bonjour, je m'appelle Judith Prelle, j'ai 11 ans. Et je voulais savoir pourquoi les petits filaments dans l'ampoule, ils font pas à force. Au revoir, merci de répondre à ma question.
Bonsoir Judith et Seamus, pourquoi ça pète les ampoules et pourquoi le petit filament dans l'ampoule, ils font pas à force. Cédric Rey, vous avez écrit La physique par les objets quotidiens, édité chez Belin. Et chez Belin aussi, vous avez fait un livre pour les jeunes qui concerne les jeux vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez leur répondre à Seamus et Judith?
Alors, bonsoir Judith, bonsoir Seamus. Effectivement, le filament, à force, il fond. Donc c'est pour ça que pètent les ampoules, parce que le filament fond. Donc là, on se réfère aux ampoules à incandescence, les vieilles ampoules qui existent chez nous depuis très longtemps. Eh bien, il va y avoir un filament de tungstène, donc c'est un métal particulier qui a la propriété d'avoir une température de fusion, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rester solide jusqu'à des températures très élevées. Et du coup, on va pouvoir chauffer ce filament jusqu'à 2200, 2600 degrés, sans qu'il fonde. Mais, bien sûr, ça va le fragiliser et va fondre un petit peu quand même. Donc, quand elle demande, Judith, pourquoi le filament de l'ampoule ne fond-il pas à force? Eh bien, effectivement, il fond un petit peu chaque fois. Et c'est ces petits atomes de tungstène qui quittent le filament, qui vont fragiliser le filament. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, eh bien, le filament va se casser, c'est-à-dire que lorsqu'il devient trop fin, eh bien, il va y avoir un phénomène de surtension. Alors, en fait, souvent, une ampoule, elle va péter quand on va l'allumer ou l'éteindre.
C'est vrai.
Et ça, c'est parce que, par exemple, à l'allumage, il va y avoir un phénomène de surtension, c'est-à-dire que la tension qu'on va mettre sur le filament va être un petit peu plus importante, justement là où le filament est très fin. Et ce phénomène-là va faire que, à cet endroit-là, comme il y a une surtension, la température va être plus forte. Et comme c'est très fin et que la température est plus forte, c'est le filament qui va fondre à cet endroit-là et donc se briser. Et pour empêcher ça, eh bien, une des idées, c'est d'avoir réintroduit un gaz qui permet de recycler ce filament. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans les ampoules halogènes.
Ah, c'est ça. Donc, dans l'ampoule halogène, il y a quand même le fil de tungstène, mais il y a un gaz qui permet de se régénérer, quoi, en fait.
Exactement. Donc, en fait, ce gaz va faire un composé avec les atomes de tungstène qui sont évaporés. Il va se redéposer sur le filament. Alors, souvent, la question, mais il se redépose pas exactement d'où ils viennent. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est pas parce qu'il est parti d'un endroit, l'atome, qui va se recombiner avec un atome d'halogène et revenir à cet endroit-là précis. Mais c'est pas grave, c'est un phénomène statistique. C'est-à-dire que, en moyenne, on va quand même redéposer des atomes de tungstène sur tout le filament. Et donc, ça va prolonger la vie de l'ampoule.
Cédric Rey, vous employez deux mots qui, pour moi, profane, sont étranges ensemble. C'est métal et évaporation. Moi, je pensais que c'était un liquide qui s'évaporait, pas un métal.
Alors, dans le sens du physicien, un solide peut s'évaporer, en fait passer de l'état de solide à l'état de vapeur, à l'état de gaz. Et c'est ce qu'on appelle sublimation, en fait. On va sublimer le métal qui va passer de l'état solide à l'état gazeux directement.
Et dernière chose, le tungstène, ça se trouve ou ça se fabrique?
Alors le tungstène, à peu près comme tous les éléments, on le trouve en fait dans des minéraux, dans des roches, et donc on va l'extraire de ces composés. On va avoir des mines de tungstène et on va le raffiner depuis des morceaux de cailloux en somme.
On s'en sert pour autre chose que pour les ampoules du tungstène?
Le tungstène, c'est un métal qui a des propriétés de résistance très très fortes. Et du coup, on va l'utiliser en particulier en oxyde de tungstène. On va typiquement le mettre pour consolider un tournevis. Donc il y a plein d'applications du tungstène.
Voilà, une autre définition du mot sublimation. Alors, à propos de mots, vous êtes très, très, très nombreux à nous demander pourquoi nous avons et comment nous avons choisi les mots pour définir les choses. Voici une question parmi tant d'autres.
Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment on a donné les noms aux choses. Merci, à bientôt.
Quelle jolie voix, Alexia. Oui. Comment a-t-on donné le nom aux choses, Pierre Bergugnot?
Eh bien, ma pauvre Alexia, ta question m'embarrasse énormément.
Vous?
Tous, y compris les savants qui étudient les langues. Parce que cette question touche littéralement à notre humanité. Nous sommes, les hommes, l'espèce symbolique par excellence. Nous utilisons des signes, des mots en quantité infinie. Mais s'il est vrai qu'un mot, c'est un son et un sens, il n'y a pas de relation naturelle nécessaire entre ce sens et ce son. La preuve, eh bien, c'est que l'on parle à peu près 5000 langues sur Terre. Chaque groupe humain est libre d'appliquer le son qu'il veut au sens qui lui plaît. Alors, je vais prendre un exemple ici. Bon, tu connais le mot « chien », tu sais à quel animal il s'applique. Mais si, par exemple, tu traverses la Manche, tu vas entendre, non pas « chien », mais « dog ». Si tu traverses le Rhin, tu entendras « hunt ». Si tu vas plus loin vers l'Est, tu entendras en russe « sabaka ». Alors, les gens très savants appellent ça l'arbitraire du signe, le fait qu'il n'y ait pas de rapport nécessaire, inévitable, universel, entre le sens d'un mot et le son qui lui est associé. Et s'il existait une relation naturelle, eh bien on ne parlerait qu'une langue sur Terre, comme par exemple, je change de registre, les moutons australiens qui vivent très loin de nous, et les moutons français, lorsqu'ils bêlent, ils produisent le même son. Mais si tu es mis en présence soit d'un colon australien qui va parler anglais, soit d'un aborigène australien qui va parler un tout petit dialecte, eh bien, tu constateras que pour désigner le chien, la lune, le soleil, le froid, le chaud, la pluie, ils utilisent d'autres sons que toi pour faire apparaître le même sens.
Vous connaissez bien sûr Pierre Bergugnot, écrivain, enseignant, normalien, agrégé. Il a écrit des dizaines d'ouvrages. Je vais vous citer juste celui-ci, « Enfantillage » aux éditions de Lerne. Slim and weak, you got the teeth of the hide. tube des années 70. C'était T-Rex dans Les Petits Bateaux sur France Inter. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants, petits et grands, nous posent des questions sur notre répondeur 01 56 40 43 57 et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Eugénie. Je suis en CM1. Je voudrais savoir comment les peintres fabriquaient leurs peintures quand les tubes n'existaient pas. Merci.
Justement, c'est votre métier, Annette Doué, puisque vous êtes experte en authenticité des matériaux de la peinture. Vous êtes aussi restauratrice de tableaux et enseignante.
Bonjour Eugénie, elle est très intéressante ta question. Alors, la peinture, pour être utilisée, doit être fluide.
Ah oui.
Et oui, c'est pas seulement quelque chose de sec, c'est aussi quelque chose qui doit être pris par un pinceau pour être posé sur un support, une toile ou un bois. Eh bien, une peinture, il faut savoir qu'au départ, c'est fait donc par un pigment qui va être mélangé à un médium pour obtenir une pâte. Et cette pâte, effectivement, elle va sécher, parce que si ça ne séchait pas, malheureusement, on ne pourrait pas l'utiliser en peinture. Donc, il faut évidemment que le peintre puisse l'utiliser avant qu'elle ne sèche. Donc, les peintres fabriquaient des petites quantités, des toutes petites quantités, où ils broyaient les pigments, ils les mélangeaient avec le médium. Donc le médium, ça pouvait être de l'huile, si on parle de la peinture à l'huile. Donc autrefois, c'était des huiles comme l'huile de lin, ça pouvait être aussi de l'huile d'aspic. L'huile d'aspic, c'est par exemple l'huile de lavande mâle. Ça pouvait être également l'huile d'œillette, qui est une huile des œillets, ou encore de l'huile de noix. Et ces huiles avaient des caractéristiques physiques différentes, plus ou moins claires, plus ou moins limpides, plus ou moins colorées, et plus ou moins coûteuses aussi.
Ah oui.
Donc, une fois que le peintre broie ses pigments dans son huile, en toute petite quantité, c'était vraiment des quantités de l'ordre d'une noisette ou d'une noix, au plus important, et bien pour les conserver, il les mettait en fait dans des petites bourses en vessie de porc. La vessie de porc, on l'utilisait déjà, puisqu'on consommait du porc, et on les utilisait pour faire du boudin, par exemple.
C'était étanche.
Ou du saucisson. C'est-à-dire que c'est des petites poches qu'on trouve facilement et qui sont étanches, et qu'on peut nouer facilement pour transporter,
sa peinture.
Ou en tout cas utiliser, non pas la transporter, parce qu'à l'époque les peintres travaillaient vraiment dans leurs ateliers.
Mais la conserver.
Et au sein des ateliers, alors je parle vraiment des époques anciennes, hein. Je parle pas de l'enluminure, je parle vraiment à partir de la Renaissance. Donc l'arrivée de la peinture à l'huile, c'est 1432 dans les Flandres, et puis jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire l'invention des tubes.
Ça revenait cher en fait, hein, j'ai bien compris, si ils faisaient des petites quantités, qui gardaient tout ça.
Alors en fait, le coût dépendait du pigment. Les terres qu'on trouvait à proximité coûtaient rien du tout, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est les pigments les meilleurs marchés. Et puis vous aviez des pigments qui venaient de très loin, de pays lointains.
Par exemple
le plus coûteux, c'était le bleu outre-mer, qui était en fait du lapis lazuli broyé.
Ah, oui.
Et ça venait de mines en Afghanistan. Et il faut imaginer qu'au XVIe et au XVIIe siècle, la provenance était rare et très coûteuse. Le bleu lapis était plus cher que l'or. Et quand ça devait être utilisé dans un tableau, il y avait une commande. Et sur ce bon de commande, c'était précisé le poids en once du pigment qui allait être utilisé.
Donc en fait, la petite vessie de porc, c'est l'ancêtre du tube, si je comprends bien, Annette Doué.
Oui, effectivement. Alors les premiers tubes, c'était en Angleterre, où un peintre anglais, James Hams, a mis au point les premiers tubes de peinture en détournant des seringues de verre ou de métal. C'était en 1822. Et puis ensuite, il y a un peintre américain qui est arrivé à Londres aussi. Et en 1841, lui, il a eu l'idée d'utiliser des tubes souples d'étain. Et cette cette technique va devenir industrielle grâce à la marque Winsor & Newton, qui existe toujours, qui est anglaise, et qui a vendu en fait les premiers tubes de peinture, c'est-à-dire les tubes avec lesquels on va pouvoir appuyer sur le tube pour faire sortir comme le dentifrice aujourd'hui.
Ouais.
Sauf qu'à l'époque, c'était de l'étain. Et en France, c'est arrivé en 1859, et c'est la maison Lefranc-Bourgeois qui a mis au point de la peinture en tube à vis.
Ah oui,
alors
d'accord.
Qu'avant, en fait, c'était un bouchon en liège. Le problème du liège, c'est que c'est quand même poreux, et effectivement, la peinture séchait dans le tube.
Annette Doué, merci. Voici l'histoire de Tanaka. Tanaka vit à Tokyo, la capitale du Japon. Il rêve de rencontrer des yokai. Les yokai sont des esprits farceurs. Ils auraient disparu avec la vie moderne, mais Tanaka aimerait bien les voir. Alors, il attend la nuit de feu. Cette nuit-là, les yokai apparaissent. Il va passer cette nuit très spéciale, loin de la ville, dans le silence et l'obscurité d'un temple en pleine campagne, en pleine montagne. Il arrive à la nuit tombée, exécute les rites et prononce les phrases qu'il faut, mais personne n'apparaît. Cependant, il se passe de drôles de choses. Il voit un cerisier en fleurs à la saison froide, puis des images qui lui parlent dans le bassin des carpes. Il voit ensuite des lampions avec des bougies allumées, mais allumées par qui ? Il n'y a personne. La suite de cette histoire qui se termine bien, vous la trouverez dans La Nuit des Yokai, édité chez L'Imprimerie, référence sur le site des Petits Bateaux. Cette nuit des esprits japonais m'a fait penser à notre Halloween, fête décriée par beaucoup pour son côté mercantilo-américain, ce qui est vrai. Mais c'est aussi une fête irlandaise qui vient d'un temps où l'Amérique n'appartenait qu'aux Indiens, où le vent soufflait en maître sur la lande irlandaise, où les légendes racontées devant un feu rougeoyant remplaçaient la lumière bleue des écrans. Ne regrettons pas le passé qui est passé, il avait ses drames. Cependant, nous pouvons pour quelques jours faire ce voyage dans le temps et égayer la nuit avec nos lumières à nos citrouilles. Ces petits bateaux sont terminés, ils sont à podcaster par franceinter.fr. Eliane Gérard, Noël Bréham, Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Vincent Godard. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30.